There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Qui met un terme à l'Antiquité ? Eh bien, on peut dire que c'est Odoacre. Sa longue expédition militaire de 476 renverse l'Empire romain. 1000 ans plus tard, en 1492, le navigateur Christophe Colomb se dirige lui aussi vers l'ouest, mais beaucoup, beaucoup plus loin. C'est la naissance des temps modernes. Entre les voyages d'Odoacre et de Colomb, il s'est passé un millénaire. Un Moyen-Âge pas si moyen qui va toujours de l'avant, où un progrès constant fait exploser la mobilité, dynamise les routes de la soie et lance les grandes explorations. On est quand même assez loin du cliché du paysan qui est cloué à sa terre. La civilisation médiévale, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, le sujet est si vaste que je vous propose de l'explorer en une mini-série de 4 épisodes. Route, danger, motivation et mentalité. Aujourd'hui, découvrons la route et les moyens de transport de l'époque. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. Le Haut Moyen-Âge hérite du réseau routier romain. Ah, les bonnes vieilles voies romaines toutes droites. Eh oui, mais pas que. Les Mérovingiens les utilisent pour les déplacements militaires et politiques. Mais ils ont aussi la voirie ordinaire, celle qui relie les localités entre elles et à la grande voie, d'ailleurs restaurée et enrichie par les Carolingiens. Ce réseau plus dense a une troisième fonction économique, les échanges marchands entre les cités. Le Moyen-Âge ne recule pas, il progresse. Pourtant, après le XIe siècle, la grande voie romaine doit être délaissée. Dégradée par le temps, elle est obsolète car elle ne parvient pas à se connecter à l'explosion démographique et aux nombreux bourgs et villages qui sont apparus. Et surtout, sans l'unité politique impériale, chaque principauté féodale cherche à maîtriser son territoire local en connectant villages, châteaux et abbayes. Un grand machin pour traverser des milliers de kilomètres ne sert absolument à rien. Chacun chez soi, chacun sa route, chacun son chemin. Mais attention, encore une fois, je n'ai pas dit que le réseau s'appauvrissait. Au contraire, l'expansion économique des 12e au 14e siècle renouvelle entièrement les routes. Paris devient le nouveau point de rayonnement des grands itinéraires du royaume. Tours, Bordeaux, Saint-Jean-Pied-de-Port et Le Puy, Avignon, Toulouse, Barcelone. À l'est, Avignon et Lyon sont des carrefours vers le reste de l'Europe. Les grandes foires de champagne attirent des marchands du monde entier, connectant Bourgogne, Milan et Londres, exactement comme l'actuelle mégalopole européenne. Le roi protège les voyageurs et leurs biens, et au XIIIe siècle, les coutumes de Beauvaisis détaillent la typologie des voies du royaume, ce qui est plutôt cool pour nous, parce qu'on peut mieux s'imaginer le trafic de l'époque. Le sentier fait 1,25 m de large, et il permet aux piétons d'aller d'une localité à l'autre à travers champs. La charrette y est interdite pour ne pas abîmer les cultures. La charrière, elle, fait 2,50 m et elle permet à deux charrettes de se croiser et au bétail mené par la bride d'avancer tranquillement. Le grand chemin, lui, fait 5 mètres de large. Charrettes, piétons et troupeaux poussés de l'avant vont et viennent en tous sens. La grande route de 10 mètres ajoute en plus des chargements commerciaux. On y paye donc une taxe qu'on appelle le droit de travers pour traverser le pays. Enfin, il y a le grand chemin royal, 20 mètres de large. Et un tracé rectiligne digne des voies romaines. Des armées entières de soldats, de voyageurs et de pèlerins peuvent y circuler, formant d'impressionnantes caravanes comme celle de Hyères-Toulouse au XIVe siècle, avec 900 tonnes de sel qui sont chargées par 416 muletiers et 6000 mulets. Et oui, c'est ça le commerce au Moyen-Âge. Les routes sont pensées pour, et les moyens de transport aussi. Sur Terre, la marche à pied reste le meilleur mode de déplacement médiéval. Désolé d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est une réalité qui concerne au moins 95% de la population, qui ne connaît rien d'autre, même pour couvrir de très très grandes distances. Cette réalité est si omniprésente qu'elle a infusé dans la mentalité médiévale qui fait de l'humain un marcheur, un voyageur par excellence, et on verra pourquoi. Le cheval, au départ réservé à l'aristocratie guerrière carolingienne, devient petit à petit l'animal à tout faire. Avec des éperons et une selle profonde, il représente une monture confortable. Tout le monde, y compris les femmes, monte à califourchon. La sambue est une selle qui sert parfois et uniquement aux nobles dames pour chevaucher en Amazone, Dans tous les cas, la selle est disposée sur une housse qui, avec le temps, s'agrandit pour recouvrir le corps, le cou et même les pattes de l'animal. Mais si on l'équipe d'une herse et d'une charrue, le cheval sert aussi pour l'agriculture. Et attelé à un charroi, il transporte les marchandises. Ferrage systématique, perfectionnement des véhicules avec un palonnier et un timon pour faciliter la traction, renforcement des roues d'une bande de fer, bref, on n'arrête pas le progrès. D'ailleurs, on développe toute une série de véhicules associés au cheval, et là encore, il y en a pour tous les goûts et toutes les classes sociales. Pour les marchandises et les personnes modestes, une charrette à deux roues fera l'affaire. Les plus aisés préfèrent la litière, un long brancard porté par 8 hommes en Orient et plutôt tiré entre deux chevaux en Europe. Le tout est garni de coussins étendus de tissus qui abritent du climat. Mais le top du top, c'est le char à 4 roues, l'ancêtre de la voiture. Un objet de luxe et d'apparat qui est peint de couleurs vives, meublé de fauteuils. Une petite échelle permet de monter dans l'habitacle couvert de draps tannés chauds et imperméables. Pour le curus du roi, on choisit les plus beaux chevaux, il en faut bien 8 pour tirer celui de Philippe le Bel. Attention tout de même au cliché des rois fainéants dans leur chariot, je parle des mérovingiens. S'ils voyagent comme ça, ça n'est pas par paresse. Au contraire, les souverains itinérants ne cessent de travailler, parcourant leur royaume avec toute leur documentation administrative. Tout comme les véhicules, les montures varient selon le besoin et le rang social. Le palefroid est réservé aux aristocrates, aux dames et aux prélats. La réforme grégorienne force d'ailleurs les religieux à chevaucher à dos d'âne en signe d'humilité. Le destrier, lui, est destiné à la bataille et donc aux nobles combattants. Tandis que le roncin peut servir de monture à leurs écuyers, mais sa solide carrure en fait aussi un excellent laboureur. Enfin, le sommier porte les bagages, les vivres et les marchandises. Tous ces usages varient selon les régions. C'est surtout dans le nord de la France que l'usage du cheval s'installe le plus rapidement. Dans le centre du pays, on privilégie plutôt les bovins pour le transport. Et encore plus au sud, l'animal de bât perdure. On a parlé tout à l'heure d'une caravane de 6000 mulets. D'ailleurs, la région méridionale a même brièvement connu quelques dromadaires en usage dans la cavalerie militaire des Visigoths. Même s'il a probablement disparu de nos côtes entre les 7e et le 9e siècle. Pour en retrouver, il faudra maintenant traverser la mer. Rien que ça. Tiens d'ailleurs, la mer, parlons-en. Sur les fleuves, le navire est essentiellement utilisé pour le fret de marchandises. Sa contenance, sa rapidité, mais aussi son coût extrêmement élevé le réserve au commerce. Pour le rentabiliser, on l'utilise jour et nuit. Des flottilles entières sillonnent les cours d'eau, affrétées par les grands bourgeois ou les municipalités. Seuls les plus fortunés, comme Sidoine Apollinaire, le destinent à un voyage aussi paresseux que raffiné, le long de l'eau, avachi dans des coussins. Tout l'inverse du voyage en mer qui est, disons-le quand même, franchement brutal. Le bateau médiéval rond descend de la galère méditerranéenne, mais aussi du célèbre navire viking visible sur la tapisserie de Bayeux. À partir du XIIIe siècle, on maximise la contenance et la sécurité de ces navires pour rentabiliser chaque trajet. Et puis les croisades exigent le transport de chevaux. Résultat, le bateau s'arrondit, s'élève sur l'eau tout en se raccourcissant. Si bien qu'au XIVe et XVe siècle, il est devenu court, pensu, avec un gouvernail d'étambot bien plus pratique vu sa hauteur. Il est si rond qu'on le représente presque comme un œuf. Avec sa cale profonde, on construit un pont pour empêcher l'eau d'entrer, et même plusieurs ponts quand le bâtiment est très grand. Un mât unique porte ses voiles, et une hune, une plateforme où peuvent tenir des archers, y est accrochée. Enfin, la sécurité est assurée par un château arrière. Ce bateau tout rond, on l'appelle la nef en Méditerranée. En mer Baltique, on parle plutôt de cog. Un titan capable de transporter jusqu'à 200 tonnes de marchandises, bientôt remplacé par la ourque, qui charge jusqu'à 300 tonnes. Mais la nef aussi évolue. D'ailleurs, elle devient peut-être l'un des bateaux les plus célèbres de l'histoire, que vous connaissez bien. Au XVe siècle, elle acquiert un second puis un troisième mât. C'est la célèbre caravelle, celle qui porte Christophe Colomb et qui s'est spécialisée dans les voyages atlantiques. Mais avec ses 100 tonneaux, elle est un lilliputien face au mastodonte qu'est la carrack du XVe siècle. Le plus grand navire médiéval ayant jamais existé. 500 tonneaux, des châteaux avant et arrière de 2 étages de haut et 3 mâts garnis de hunes si lourdes qu'elles peuvent contenir de l'artillerie. C'est une véritable forteresse volante, le sommet de la technologie médiévale, qui montre à quel point toute cette époque était obsédée par la performance. Et pourtant, toute cette perfection a un défaut, le bateau rond continue de dépendre du vent. Un Londres-Bordeaux prend alors 10 à 12 jours. Mais en 1475, le roi Édouard IV met 3 semaines rien que pour traverser la Manche à cause des vents contraires. Aussi, en Méditerranée, notamment à Venise, on essaye de pallier ce problème avec des galères rapides, légères et indépendantes du vent, grâce à leurs rameurs. Mais incapables de transporter des charges aussi lourdes et encombrantes, elles sont peu à peu dépassées et à partir du XVe siècle, elles ne servent plus que pour la guerre. Et c'est bien utile vu tous les pirates qui sillonnent les côtes. Ce qui n'est qu'un des nombreux risques que le voyageur médiéval doit affronter. Mais vous découvrirez ça dans la suite de notre série sur le voyage au Moyen-Âge. Prochaine étape, les dangers et les peurs du voyage. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.